un de la gravure. Elle a, en 2011, elle a organisé une exposition sur l'art et la maternité. Art et maternité, le dernier salon, avec des représentations non stéréotypées de la maternité.
Ah, il n'y a pas de souci.
Diana Kuhn a fait une thèse sur les femmes, l'art et le féminisme enfant dans les années 70. Et plus précisément sur le collectif Femmes Art dont elle va nous parler. Quelles questions se posent les artistes, se posent aujourd'hui les artistes? Comment, en tant qu'artiste femme, se positionner? Est-ce qu'il se dégage des positionnements? Diana Kuhn, c'est à toi.
Juste une petite question, j'ai vraiment combien de temps parce que je dois vraiment arrêter avant 18h?
Oui, on va avoir un problème de temps. Peut-être en régie ou...
À 6h, on doit être tous partis.
À 6h?
On devrait terminer ici à 17h.
Bon, donc j'ai quoi, 10 mois, un quart d'heure, 10 minutes. Comment? 5 minutes? Bon. Ah oui. Comment je mets les images? Bah, ce que je vais faire, parce que Fabienne a déjà évoqué beaucoup de choses, ce que je voulais faire était de faire une sorte de gros plan sur un groupe de plasticiennes. Donc dans les années 70, donc le collectif Femmes Art qui était créé par Françoise Elliott, donc une femme qui est décédée il y a quelques dans les années 80. Voilà, donc comme elle a expliqué, c'était un groupe de c'était un groupe de plasticiennes donc actif à Paris à la fin des années 70, entre 76 et 78. Et ce que je vais faire, comme il y avait une question, quel était l'impact des groupes de plasticiennes françaises sur la scène artistique, ou pourquoi les Françaises n'ont pas réussi à s'imposer autant que les Américaines. Bon, je vais essayer de parler un peu de ça. Donc ici, c'était une réunion dans l'atelier de Françoise Janicot. Donc Françoise Janicot était l'une des artistes principales du collectif Femmes Art. Donc c'était des réunions très informelles qui avaient lieu dans des ateliers des participantes. Ça permettait aux artistes de se rencontrer et de découvrir les œuvres des unes et des autres. Et là, dans cette photo, il y a Françoise Elliott à l'extrême gauche, Isabelle Champion-Métadier, Vera Molnar, c'est Aline Dallier au milieu, il y avait Marie Orensens. Parmi les artistes qui ont participé à ce groupe, il y avait Monique Friedman, Léa Lublin, il y avait Liliane Camier qui est là aujourd'hui, Claude Bourré-Allard, Christina Martinez, je passe. Pourquoi les groupes de plasticiennes françaises n'ont pas autant réussi à s'imposer comme les Américaines? En fait, justement, comme quelqu'un avait dit tout à l'heure, effectivement, se dire féministe n'était pas toujours très bien vu. Et beaucoup d'artistes, en fait, étaient... je pense qu'elles avaient peur d'affirmer qu'elles étaient féministes parce que elles pourraient se retrouver coupées du milieu de l'art, enfin, du vrai milieu de l'art masculin si... si elle affirmait qu'elles étaient féministes. Le paradoxe, c'est que les artistes, donc surtout les jeunes artistes qui participaient à ce groupe de plasticiennes, elles avaient besoin de montrer leur travail et elles avaient envie d'agir pour améliorer la visibilité des femmes dans le milieu de l'art. Mais en même temps, certaines avaient peur de la ghettoisation. Elles voulaient promouvoir l'art des femmes et en même temps, elles ne voulaient pas trop exposer entre femmes ou se dire féministes parce que ce n'est pas très bien vu. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais juste montrer quelques œuvres pour donner une idée. Voilà, encore une manif aux États-Unis. pour montrer que les artistes françaises n'ont pas fait autant que les américaines. C'est vrai, les américaines étaient plus nombreuses, mais bon, voilà. Alors, est-ce que j'ai le temps de parler de François Génicault? Bon, François Génicault, c'était une artiste clé du collectif Femmes Art. Elle, dans les années 50 et 60, elle avait une pratique de la peinture abstraite. Donc, elle exposait, elle était soutenue par des critiques d'art. Et puis, suite à mai 68 et les premières manifestations féministes dans les années 70, elle avait une prise de conscience, elle a remis en question sa pratique. Donc, elle commençait à faire un travail féministe. Donc, elle a pris conscience, en fait, de son isolement en tant qu'artiste, enfermée dans son atelier, et doublement de son invisibilité et son enfermement en tant qu'artiste femme. Donc, dans les années 70, elle a commencé à prendre ses toiles, ses grandes toiles abstraites, et elle les a cachées, donc comme ça, avec des grillages métalliques. Donc, on ne dirait pas que c'est une œuvre féministe, mais c'était l'inspiration du départ. Donc elle commence aussi à expérimenter d'autres techniques comme la photographie et la performance. Bon, là, ce sont deux photos d'un livre d'artiste. Donc l'artiste, elle commence aussi, elle sort dans la rue et elle photographie des choses qui sont cachées ou barrées ou grillagées. Donc elle a juxtaposé une photo d'une horloge barrée avec un autoportrait. Donc c'est sa tête emballée de pincements suite à un accident. Et c'est cette œuvre-là qui va donner naissance, enfin qui va déclencher son action assez célèbre, l'encoconnage. Donc c'est une action dans laquelle l'artiste souhaite rendre visible son invisibilité en tant qu'artiste. Donc elle s'enroule donc des pieds à la tête de ficelle. Donc c'est une action qui date de 72, avant sa participation au groupe de plasticiennes. Mais bon, l'artiste a expliqué que quand elle a changé sa pratique, quand elle a passé de la peinture à une pratique plutôt féministe, elle n'avait plus de galerie, elle n'avait plus tellement de soutien de critiques d'art. Donc, quand plus tard elle a commencé à participer au collectif Femmes Art, pour elle, c'était un vrai soutien. Voilà, donc là, je passe à un autre artiste. Donc, on reste dans la thématique de la maternité. Donc, l'artiste, c'est Léa Dublin. Donc elle est de la même génération que Françoise Génicault, donc toutes les deux sont nées en 29. Léa Dublin, elle aussi, elle avait une pratique de la peinture au départ. Et puis, bon, comme beaucoup d'artistes de sa génération, après mai 68, elle a remis tout en question la peinture et elle a commencé à faire des actions et des œuvres interactives qui souligne la dynamique qui existe entre l'œuvre d'art et l'artiste et le spectateur. Donc, en 68, elle venait d'avoir un bébé, donc elle avait presque 40 ans, elle ne pensait pas pouvoir avoir un enfant. Donc, quand elle était invitée à participer au Salon du Mai en 68, elle s'est dit, je vais m'exposer avec mon fils. Donc, elle a réalisé le portrait de son enfant. Et au musée, donc, le portrait sur plexiglas, et elle a installé le lit de l'enfant devant le tableau. Et puis, pendant la durée de l'exposition, elle était là, sur place, à s'exposer avec son enfant. Donc là, c'était avant les premières manifestations féministes à Paris. Donc, Léa Dublin, elle a fait un certain nombre d'œuvres qui s'inspirent de sa vie de femme. Et certaines œuvres ont quand même une dimension féministe, mais elle, par exemple, elle n'a jamais voulu affirmer qu'elle était artiste féministe. Bon, pour elle, c'était une étiquette réductrice. Et donc ici, dans cette œuvre, elle s'affirme à la fois comme maman et artiste professionnelle, et elle était toujours très fière de dire qu'elle a fait cette œuvre avant les mouvements féministes, pour dire... Voilà, donc là, une autre œuvre de Léa Dublin. Alors, c'est une action qui s'appelle dissolution dans l'eau. C'est une action qui a été réalisée dans le cadre d'une manifestation organisée par Françoise Janicot, donc dans le cadre du collectif Femmes Art. Françoise Janicot, comme son thème de prédilection était l'enfermement, elle avait organisé une journée d'action chez elle, dans son atelier, sur le thème de l'enfermement. Et donc, elle a invité quelques artistes à exposer donc, avec elle, chez elle, de 10h du matin jusqu'à 10h le soir. Alors, Léa Lublin est venue avec cette banderole sur laquelle elle avait tamponné plusieurs questions sur les vieilles stéréotypes de la femme. Donc, la femme est-elle une victime sexuelle, une image immaculée, une sainte mère, etc. Donc, Léa Lublin, elle est arrivée le matin, elle a accroché sa banderole, et puis, à la fin de l'après-midi, elle n'écoutait plus Françoise Janicot, qui ne voulait pas qu'elle sorte. Alors, elle est sortie dans la rue. L'atelier de Françoise Janicot était dans l'île Saint-Louis. Donc, Léa Lublin, elle est sortie de l'atelier, suivie d'une petite foule. Et puis, elle a fait descendre son banderole dans la Seine pour faire dissoudre tous les vieux préjugés sur les femmes. Je précise encore une fois, Léa Lublin, elle était tout à fait d'accord pour participer à un groupe de plasticiennes pour soutenir les femmes, pour une meilleure reconnaissance et tout. Et cette œuvre, pour moi, est tout à fait féministe, mais l'artiste dirait non, ce n'est pas une œuvre féministe et je ne suis pas une artiste féministe. Donc voilà les contradictions, pourquoi on veut bien faire des choses, mais on n'a pas envie d'aller jusqu'au bout parce que ça fait peur. Voilà. Alors, une autre artiste, Monique Friedman, donc c'est un autre cas. Donc Monique Friedman, elle était plus jeune que François Janicot et Léa Lublin. Elle a démarré sa pratique au milieu des années 70. Comment raccourcir tout ça? Elle, quand elle est sortie de l'école de Beaux-Arts en 68, les tendances dominantes de la peinture à cette époque, c'était la peinture socio-critique d'un côté et Support Surface et Daniel Buren et compagnie de l'autre. Et Monique Friedman, elle ne se sentait pas vraiment bien ni dans une direction ni dans une autre. Elle se sentait trop inhibée en tant qu'artiste. Alors, elle a pris du temps pour réfléchir. Donc, elle a participé à des groupes féministes pour la libération de l'avortement. Elle a réfléchi sur elle-même en tant que sujet créatrice et femme. Et donc, quand elle a repris un travail pictural au milieu des années 70, elle est partie d'elle-même, de son corps. Donc, c'est un travail graphique, le trait, le geste, voilà. C'est de l'artiste dans son atelier. Ce sont une série de peintures à l'huile noire sur papier. Je vais passer sur plein de choses. Finalement, Monique Friedman, pour elle, le collectif Femmes Art, c'était comme un tremplin. Donc, c'est grâce à des manifestations organisées par le collectif et surtout par un week-end de porte ouverte qu'elle a organisé chez elle avec un débat. Je peux vous raconter très rapidement. En 1978, elle a organisé un débat chez elle avec trois femmes et trois hommes. Le sujet du débat était « Les femmes ont-elles accès au symbolique ?» Voilà, c'était un questionnement absolument absurde. Donc, les femmes, elles ont voulu provoquer un petit peu en posant cette question-là. Mais le problème, c'est que cette stratégie s'est retournée contre elles. Par exemple, parmi les trois hommes qui ont participé au débat, il y avait Philippe Solers qui a profité pour tout casser. Donc, il a dit, voilà, les femmes n'ont jamais rien produit de génial et ils ne produiront jamais rien de génial. Il y avait des femmes qui ont pris ça au premier degré. C'était le chaos et rien n'a été avancé ce jour-là. Mais en tout cas, pour Monique Friedman, il y avait beaucoup de monde qui a passé chez elle ce week-end-là et ça y est, sa carrière a bien démarré. Alors voilà un autre artiste, Isabelle Champion-Métadier. Alors, c'est un autre cas. Isabelle Champion, c'est la même génération que Monique Friedman. Elle, à la différence de Friedman, elle était tout à fait intéressée par les expériences du groupe Support Surface. Et dans les années 70, elle a entamé une pratique de la peinture expérimentale. Donc, elle a utilisé une éponge pour faire des traits et des gestes, et des traits répétitifs. Bon, bah, très bref. Isabelle Champlain-Métadier, elle dit qu'elle a marqué une séparation nette entre son activisme politique et son travail d'atelier. Donc, pour elle, il n'y avait pas de lien entre son engagement féministe et son travail de peinture. Donc, elle a participé à un groupe de femmes artistes par solidarité, parce qu'elle avait lutté dans les groupes féministes pour l'avortement et tout ça. Mais pour elle, tout le questionnement sur l'imaginaire féminin masculin, ça ne l'intéressait pas du tout. Voilà, et je dis ça parce que Françoise Elliott, donc la personne qui a créé ce collectif Femmes Art, en tant que psychanalyste, elle se posait beaucoup de questions sur le processus créatif. Comment travaille-t-on en tant que femme ou homme? Existait un imaginaire spécifique aux femmes et aux hommes? Elle s'intéressait à ces questions. Bon, même si toutes les femmes qui participaient au collectif n'étaient pas d'accord sur les réponses à ces questions, elle cherchait dans la vie et la biographie des femmes pour avoir des clés sur leur travail, sur leur processus de réflexion et de création. Alors, une dernière artiste, donc. Oh, ça, c'est encore Isabelle Champion-Métadier. Effectivement, les couleurs ne sont pas du tout justes. Alors, dernière artiste, pour montrer encore un cas différent, Christina Martinez, elle est née en 38, donc elle est entre la génération Janico et Friedman. Dans les années, fin des années 60, dans le début des années 70, elle avait une pratique, elle a une pratique de peinture et de dessin. Là, c'est une peinture donc de 75. Elle était proche de la nouvelle figuration. Comme ça. Bon, elle était proche de la nouvelle figuration et elle-même, elle dit à cette époque. Pour elle, c'était des images fortes. Pour elle, c'était important d'être actuelle et de ne rien montrer de féminin dans son travail. Donc, elle voulait que son travail s'inscrit dans des courants actuels de l'art. Et elle s'est rendue compte, mais elle dit qu'elle avait peut-être masqué un désir de faire autre chose. Donc, c'était grâce à son contact avec d'autres artistes femmes qui étaient elles-mêmes en train de s'affirmer ou de chercher leur voix, qu'elle s'est permis de faire autre chose. Donc, par exemple, elle ne voulait rien montrer de fragile ou éphémère dans son travail au début des années 70, mais plus tard, elle s'est rendue compte que c'était possible. Donc, je suis désolée pour la qualité des images. Bon, ici, donc c'est un travail de dessin, ça date de 78, un travail au crayon couleur. Donc c'est un dessin qui s'intitule « Archéologie ». Christina Martinez, elle a abandonné les formes qu'elle avait peintes avant, des formes plus industrielles ou intérieures, un peu comme les formes anatomiques. Donc, elle passe de l'intérieur à l'extérieur. Donc, elle va dessiner dans la nature. Donc, ce dessin archéologie, c'est un très grand dessin, à peu près 2,5 mètres de longueur. Elle choisit aussi le crayon parce que ça va lui permettre de faire des grandes subtilités, des traits très délicats. Donc, elle se permet, en fait, de dessiner quelque chose de plus léger, de plus fragile, de laisser apparaître quelque chose qui peut être considéré comme féminin, mais bon, qu'est-ce qui... Je vous montre un autre dessin qui s'intitule Jardin. Donc, c'est de 82, un petit peu plus tard. L'artiste dit que quand elle est dans la nature, elle cherche à atteindre un état de grande réceptivité, une sorte de transparence corporelle, pour que son regard puisse se laisser prendre par le lieu. Et donc, dans l'atelier, elle recrée l'expérience, c'est la mémoire corporelle du paysage. Donc, pour terminer rapidement, l'artiste dit que son contact avec les collectifs de plasticiennes lui a permis de renouer un peu avec son intuition de créatrice, et il fallait elle-même qu'elle se débarrasse des idées préconçues sur le féminin. Enfin, c'est pas parce qu'on dessine quelque chose de très léger que c'est... je me confonds, mais voilà. Donc, fragile, faible et féminin ne vont pas tous ensemble. Voilà, c'est un dessin, un beau dessin qui est très fort. C'est féminin parce qu'une femme l'a fait, et puis voilà. Donc là, il faut que je m'arrête parce que sinon, on va être jeté dehors. Donc, voilà, donc je comprends. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que les mots féminin et féministe font toujours peur, ça pose toujours un problème, donc il faut retravailler sur les définitions de ces termes. Voilà. Pas de rien.